Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour. Édition du mardi 2 novembre 2021 en direct de Washington, Idrissa Sédoudia
et Mouamadou Oumfa.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, le premier ministre déposé, Abdalla Hamdok, réclame la restauration de son gouvernement.
En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed promet la victoire dans les combats entre son armée et les rebelles tigréens dans le nord.
Au Mali, libération de 3 otages chinois enlevés en juillet.
Au Nigeria, au moins 4 morts et des dizaines d'ouvriers toujours coincés après l'effondrement d'un immeuble à Lagos.
En RDC, 110 attaques ont été recensées contre des journalistes en 2021, selon un rapport de l'organisation Journalistes en danger.
Sommet de la COP26 en Écosse, les dirigeants vont s'engager ce mardi à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal. Mohamed.
Le premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, en résidence surveillée depuis le coup d'État du 25 octobre, a estimé que la voie vers une sortie de crise passait par le retour de son cabinet renversé. Selon un communiqué du ministère de l'Information publié sur sa page Facebook, M. Hamdok a également réclamé lors d'une rencontre avec les ambassadeurs américains, britanniques et norvégiens la libération des dirigeants civils. Ces derniers sont toujours introuvables depuis leur arrestation, a indiqué leur avocat Kamal al-Jizouli à l'AFP, réclamant que soit rendu public le lieu où ministres et politiciens sont détenus.
Le pays, englué dans le marasme politique et économique depuis des décennies, est désormais à l'arrêt entre militaires intransigeants et manifestants anti-putsch en désobéissance civile depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a dissous toutes les institutions, selon le ministère de l'Information, entré en dissidence depuis le putsch. L'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique reviendra ce mardi à Khartoum.
Pour sa part, l'émissaire spécial de l'ONU, Volker Perthes, a fait savoir que les efforts s'intensifient pour trouver une solution soudanaise.
Les contours d'une voie de sortie de crise pourraient émerger dans les tout prochains, a déclaré M. Perthes hier à partir de Khartoum dans une liaison vidéo avec des journalistes à New York. Plusieurs médiations sont en cours et l'ONU appuie quelques-unes avec des idées et des initiatives, a-t-il révélé. Pour rappel, la crise est née lorsque le général Abdel Fattah al-Burhan a renversé le premier ministre Abdalla Hamdok et fait arrêter les principaux membres de son gouvernement.
Les combattants du Front de Libération, nous sommes là en Éthiopie, les combattants du Front de Libération du Peuple du Tigré, TPLF, ont affirmé dimanche s'être emparés de Kombolcha après avoir revendiqué la veille la prise de la ville voisine de Dessié, deux affirmations démenties par le gouvernement. Si la prise se confirmait, elle marquerait une nouvelle étape majeure dans le conflit. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est dit alarmé par la situation, appelant sur Twitter à un arrêt des combats et à des négociations de cessez-le-feu sans condition préalable.
Oui, pour revenir un peu sur le Soudan, l'émissaire onusien a dit n'être pas en mesure de parler des exigences de Burhan et de Hamdok, mais selon des médiateurs, la principale proposition dissoudrait le Conseil souverain, confierait les pleins pouvoirs au général Burhan, qui nommerait un gouvernement de technocrates, les partis politiques, les groupes rebelles et ceux de la société civile seraient représentés au Parlement, alors que les militaires dirigeraient le Conseil de sécurité et de défense.
En Éthiopie voisine, le premier ministre Abiy Ahmed a promis lundi de se battre jusqu'à la victoire dans la guerre qui fait rage depuis un an dans le nord de son pays après que les rebelles tigréens ont affirmé avoir pris une autre ville clé. Les combats se sont poursuivis entre forces éthiopiennes et rebelles tigréens autour de Kombolcha, selon les habitants, au lendemain de l'annonce par les rebelles de la prise de cette ville stratégique située en région Amhara.
trois ressortissants chinois enlevés dans le sud-ouest du Mali en juillet ont été libérés, a annoncé lundi la présidence dans un communiqué. Des hommes armés non identifiés avaient enlevé les trois hommes ainsi que deux Mauritaniens, libérés 10 jours plus tard lors de l'attaque le 17 juillet dans un chantier de construction d'une route à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kuala.
Les otages travaillaient pour une entreprise de BTP chinoise, COVEC, selon le communiqué du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est resté flou sur les circonstances de cette libération. Elle a été possible grâce à la conjonction des efforts des forces de défense et de sécurité, des forces spéciales et des services de renseignement, a-t-il seulement précisé.
Au Nigeria, des dizaines d'ouvriers sont toujours coincés sous les décombres d'un gratte-ciel en construction qui s'est effondré lundi à Lagos, la capitale économique, faisant au moins 4 morts et plusieurs blessés. Le bilan pourrait s'alourdir. Je crois que maintenant on peut passer avec Rosine Munezero.
L'immeuble situé sur l'une des avenues les plus chics de Lagos s'est effondré un peu avant 15h, heure locale, alors que des dizaines d'ouvriers se trouvaient sur le chantier. Autour de la montagne de gravats isérés et effarés, la peau couverte de poussière, le regard dans le vide. « J'étais en train de travailler en bas, c'est pour ça que j'ai la vie sauve », dit Tayo Soulé, 21 ans, la voix encore tremblante. Un peu plus loin, une foule de plusieurs centaines de personnes s'agglutinait autour du site de construction. Certains demandant aux quelques autorités présentes sur place où étaient les secours et pourquoi ceci prenait trop longtemps. Sur place, la police a indiqué ne pas encore connaître la cause de l'effondrement. Au Nigeria, l'effondrement de bâtiments est une tragédie fréquente. Dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés et la législation concernant la construction est régulièrement bafouée.
République démocratique du Congo, quelques 110 attaques contre des journalistes ou des médias ont été recensées par l'organisation Journalistes en danger dans son rapport 2021. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon cette organisation, partenaire de Reporters sans frontières, pour cette année 2021, plus de la moitié des cas d'atteinte à la liberté de la presse, soit 51%, touchent à la sécurité physique des journalistes et sont constitués de menaces qui précèdent parfois des assassinats. Pour Journalistes en danger, la multiplication des attaques contre les acteurs de la presse révèle une détérioration de l'environnement sécuritaire de travail des médias, qui a culminé par un cas d'enlèvement et 3 assassinats de journalistes. GOD regrette qu'en dépit de ces nombreuses promesses faites à la presse, le nouveau pouvoir n'a toujours pas su lancer des signaux forts en faveur de la liberté de la presse. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les populations civiles. Le président Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. En 2020, 116 exactions contre des journalistes avaient été recensées en RDC par la même organisation. La RDC est classée 150e sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse 2021 de Reporters sans frontières.
Les Sud-Africains ont voté sans engouement ce lundi pour des élections municipales qui pourraient voir l'ANC, parti historique au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, passer pour la première fois sous la barre des 50% face à la désillusion d'une population confrontée à un chômage record, soit 34,4%, et écœurée par les multiples scandales de corruption impliquant de hauts responsables du parti, dont l'ex-président Jacob Zuma. Le scrutin qui s'est déroulé majoritairement dans le calme a vu des électeurs se présenter au compte-gouttes. Il s'agissait d'élire les représentants de plus de 250 municipalités.
Les dirigeants du monde vont s'engager ce mardi à la COP 26 à enrayer la déforestation d'ici à 2030 pour protéger le climat, a annoncé le gouvernement britannique, hôte de la conférence sur le climat. Un engagement jugé trop lointain par les défenseurs de l'environnement. Cette déclaration commune sera adoptée par plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo.
En premier pays, l'Indonésie a autorisé le vaccin de Novavax contre le Covid-19, a annoncé lundi l'entreprise américaine. Il sera produit par le Serum Institute of India et commercialisé sous le nom de Covovax. Ce vaccin utilise une technologie différente de celle employée pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde. La Minute Éco, Nanit Talani.
La Banque mondiale débourse près de 40 milliards de francs CFA pour appuyer le projet de couverture santé universelle au profit d'environ 60% de la population togolaise. Ces fonds permettront d'améliorer les services essentiels de santé et de nutrition, ainsi que la qualité des soins pour les femmes enceintes, les enfants et les populations vulnérables. Le projet, qui englobera toutes les régions du Togo, construira plus d'une centaine de nouvelles installations sanitaires de niveau primaire, déploiera des milliers d'employés et améliorera l'accès aux médicaments. La croissance des grandes économies d'Afrique subsaharienne sera mitigée jusqu'en 2022, indique l'agence Reuters. Le Nigeria, la plus grande économie du continent, connaîtra une croissance de 2,7% contre 2,5% cette année. Le Kenya, la plus grande économie d'Afrique de l'Est, connaîtra une croissance de 5,3% en 2022 contre 5,1% en 2021. Pour terminer, en Côte d'Ivoire, les habitants de la région pétrolifère de Jacquesville dénoncent la gestion jugée opaque de l'exploitation du pétrole alors qu'un troisième oléoduc est en train d'être achevé. Ils se disent marginalisés et veulent désormais bénéficier des retombées de l'exploitation de l'or noir. Le Conseil pétrole-gaz affirme ne pas recevoir d'enveloppe pétrolière pour réaliser les projets communautaires.
Merci, Nanit. Sport à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Cyclisme pour commencer avec le Tour cycliste international du Faso qui se poursuit au Burkina. L'étape 5 amènera le peloton aujourd'hui de Lumbila à Kaya, 100 km. Hier, l'Ivoirien Issiaka Cissé a remporté la quatrième étape courue entre l'Aïe et Waïguia devant le Malien Yaya Diallo et l'Algérien Hamza Yassine. Le maillot jaune est toujours la propriété du Belge Wouters Rutgers, suivi de près par le Marocain El Kouradji Mohsin. Football, la quatrième journée de la Ligue des champions débute ce soir en Europe avec 3 victoires, 12 buts inscrits et aucun encaissé. Le Bayern Munich, meilleure attaque et meilleure défense de la compétition, est sûr d'être qualifié pour les huitièmes en 4 succès ce soir face au Benfica Lisbonne. À l'opposé, Barcelone continue de végéter à l'heure d'un déplacement crucial à Kiev sur le terrain du Dynamo. Manchester United se déplace à Bergame en Italie pour faire face à l'Atalanta. Villarreal joue contre les Young Boys de Berne. Les Autrichiens de Salzbourg pourraient se qualifier en 4 succès chez les Allemands de Wolfsburg. L'autre match du groupe sera un duel pour la deuxième place entre le Séville FC et Lille. La Juventus Turin entrevoit déjà les huitièmes de finale. Au moment d'accueillir le Zénith Saint-Pétersbourg, un succès validerait le biais des Turinois. Derrière eux, le tenant du titre Chelsea doit battre la lanterne rouge Malmö pour éviter une mauvaise surprise. La FIFA a infligé amende et match à huis clos à une cinquantaine de fédérations, dont la France, l'Argentine et le Mexique, en raison d'incidents lors des qualifications du Mondial 2022. Déjà annoncée fin septembre, la sanction la plus lourde est revenue à la Hongrie pour insultes racistes de ses supporters, soit 2 rencontres à huis clos, dont une avec sursis, un match à l'extérieur sans supporters et une amende de 266 000 euros. Autre pays sanctionné, la France, qui doit payer une amende de 1 895 euros parce qu'une proportion non précisée de spectateurs ne portait pas de masque lors du match nul à domicile début septembre contre la Bosnie-Herzégovine 1-1. L'Argentine a de son côté écopé de 28 000 euros et d'une rencontre avec une jauge limitée non chiffrée pour l'instant en raison du comportement discriminatoire des supporters lorsque l'Albi-Céleste a reçu l'Uruguay. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Philadelphie et Portland, 113 à 103. Atlanta et Washington, 118 à 111. Chicago et Boston, 128 à 114. Toronto et New York, 113 à 104. Indiana et San Antonio, 131 à 118. Cleveland et Charlotte 113 à 110, Memphis et Denver 106 à 97, Orlando et Minnesota 115 à 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La crise sécuritaire dans le Sahel a eu un impact sur les activités culturelles, dont le festival sur le désert de Sakin dans la région de Tombouctou, qui jadis mobilisait des milliers de festivaliers venant de partout dans le monde. Toutefois, pour raviver le flambeau, trois festivals se tiennent depuis 2013 dans trois pays de la région. Une caravane culturelle dite de la paix. Au Maroc, au Mali et en Mauritanie, des artistes se produisent pour promouvoir la paix. Après le royaume chérifien, c'était au tour du Mali de les accueillir le week-end dernier d'octobre. Le dernier week-end d'octobre, Mokhtar Bari s'est rendu à Ségou, où la caravane a marqué un arrêt.
La caravane culturelle de la paix était à sa 8e édition cette année. Après l'étape marocaine au festival de Taragald, c'est à Ségou, ville hôte du festival sur le Niger, qu'a eu lieu la 2e étape. Un festival qui a failli ne pas avoir lieu en raison du Covid-19. Ibrahim Sbaye est le directeur artistique du festival Taragalt au Maroc.
Il faut rappeler que en 2014, nous avons initié ce projet et le but c'est d'aller vers les camps de réfugiés au Burkina Faso avec des artistes marocains et maliens pendant quelques jours pour célébrer aussi la paix et passer des moments de joie avec les camps de réfugiés, c'est-à-dire que de la portée de la joie et nous avons beaucoup de plaisir, c'est-à-dire de partager ces belles moments avec eux. Nous aimerions continuer à perpétuer cet rassemblement qui vise la paix, la tolérance, les échanges culturels, la diversité.
Des artistes qui n'en demandaient pas mieux pour communier avec le public, mais aussi pour véhiculer des messages de paix et de réconciliation, comme l'a dit Fatim Diabaté Hautegam, une des participants.
Pendant ma prestation, j'ai passé beaucoup de messages. J'ai essayé de communiquer avec mon public et leur faire part de ce que je ressens. Parce que c'est à travers ma chanson que je m'exprime et je dis ce que je ressens dans le cœur. Et l'envie d'avoir la paix chez moi, au Mali.
Écoutons maintenant Ahmed Ag Ali, leader du groupe Amanar Tekidal.
Nous avons toujours envoyé tous nos messages, c'est pour la paix, c'est pour que le Mali d'avant nous revienne, avant de chercher un Mali nouveau. Nous souhaitons là où nous sommes vraiment que notre ancien Mali nous revienne. Quand je vais au nord, je suis obligé de cacher ma carte d'identité d'artiste et toutes les autres cartes sur lesquelles il y a les drapeaux du Mali, parce que dès qu'on trouve ça avec moi, un artiste, avec les nombreuses choses qui se passent au centre du pays actuellement, nous sommes vraiment en danger. On ne peut pas jouer la guitare à partir des Mopti et qui va au nord. Tu ne peux pas jouer vraiment un concert vraiment public, quoi.
La caravane qui espère un retour rapide de la paix au Sahel s'est ébranlée en direction du désert mauritanien, précisément le camp de réfugiés de Mbera, où vivent 50 000 déplacés maliens depuis le début de la crise en 2012. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
De vrais passionnés, ces motards, ils se sont donné rendez-vous le week-end dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour vivre leur passion, celle de la moto. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à cet événement. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Il ne s'agit pas là de cinéma, même si nous sommes ici au siège du FESPACO, le Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous sommes au village des motards. Des centaines de motos sont exposées. Ces motards, au moins 300, venus de plusieurs pays de la sous-région, célèbrent leur passion à Ouagadougou. Ici, la moto est source d'intégration africaine. Ce jeune homme est un motard venu du Mali.
On est venu au Burkina pour le festival. On est tous des frères. Burkina, Mali, c'est la même chose. C'est le même pays. Et c'est notre passion. La passion, personne ne peut enlever la passion dans le cœur de quelqu'un. Si tu es passionné, tu es passionné. Les motos, c'est notre passion. Que Dieu nous garde seulement.
Habib Aboukédoud est formateur moto du Bénin.
Je me réjouis en tout cas de voir que cette initiative a pu, qui a été parrainée et qui a été soutenue par les autorités du Burkina, a pu réunir plusieurs nations africaines. Et c'est le cas de dire bravo. Et c'est le cas aussi de dire que la moto réunit, la moto avec la moto en fédère, et l'intégration africaine par la moto, c'est tout à fait possible.
Cette activité des motards a pour but de mener à une sensibilisation. Abdelaziz Konaté, membre des motards du Faso.
Il y a toujours une sensibilisation. Les motards du Faso, comme je le disais tantôt, c'est une association à but non lucratif et nous militons spécialement pour la sécurité routière. Bon, beaucoup se disent les motards, ce sont en griffe des voyous et tout, ce n'est pas vraiment ça. Dans les motards du Faso, vous avez au bas mot, je dirais, des pilotes, vous avez des docteurs, vous avez des professeurs, donc c'est vraiment un melting pot. Vous avez, voilà, c'est la passion qui nous réunit. C'est vraiment un challenge. Les gens, les motards sont venus du Togo, du Bénin, du Ghana. Aujourd'hui, vous avez 300 motards qui ont quitté leur contrée, traversé les différentes frontières et qui sont à Ouaga aujourd'hui.
Durant trois jours, Ouagadougou a confirmé son titre de capitale des deux roues. L'activité, les 72 heures du motard, était à sa première édition. Les organisateurs se penchent sur la prochaine édition en 2022. Mais avant, ils participeront à d'autres rencontres de motos dans la sous-région. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les dirigeants du monde sont réunis depuis ce lundi à Glasgow, en Écosse, pour la COP26, la conférence internationale sur le climat, considérée comme cruciale pour l'avenir de l'humanité. Quel rôle l'Afrique devrait-elle jouer dans cette lutte contre le changement climatique? Marius Muhunga s'est entretenu avec l'un des négociateurs africains à ses assises, Tosi Mpanumpam.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique. L'Afrique représente environ 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Pourtant, l'Afrique est extrêmement vulnérable face aux effets néfastes du changement climatique. Donc l'Afrique se doit d'aller dans ce forum pour essayer de présenter ses revendications, pour essayer d'argumenter sa position, essayer d'obtenir les moyens pour avoir une juste compensation par rapport à ce qu'elle subit et par rapport aux solutions qu'elle apporte sans pour autant en recevoir une juste contribution. Nous sommes victimes face à un changement climatique que nous n'avons pas créé et nous voulons avoir des moyens pour pouvoir faire face aux effets néfastes de ce changement climatique.
Ça donne l'impression que l'Afrique y va dans une position de victime, n'est-ce pas?
L'Afrique ne va pas non plus dans une posture de victime. L'Afrique dit c'est un phénomène qui nous affecte nous tous. Nous, pays africains, déjà avec nos propres deniers, nous initions plusieurs actions. Il est important que la communauté internationale puisse prendre le relais pour nous aider à faire encore plus.
On parle également de ce budget de 100 milliards de dollars que les pays riches devaient mettre à disposition des pays africains pour justement lutter contre ce changement climatique, mais on n'y est toujours pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, donc effectivement, la COP15 de Copenhague en 2009, malheureusement, il y a eu la pandémie, malheureusement, il y a eu peut-être un manque de volonté politique de la part des pays développés. En tout cas, un rapport de l'OCDE a été publié au mois de septembre. Et il est établi qu'en 2020, seuls 79 milliards de dollars ont été mobilisés. Et je pense que c'est un signal assez négatif qui a été envoyé à la communauté internationale, parce que cela veut dire que les pays en développement qui prenaient leurs maigres deniers pour investir dans l'action climatique, en sachant que ensuite la communauté internationale allait prendre le relais, ces pays-là se rendent compte que au rendez-vous, les pays développés ne sont pas là. Et donc cela va pousser beaucoup de pays en développement à faire montre de moins d'ambition dans leur action climatique. Et lorsqu'ils voient que les 100 milliards de dollars qui devaient être mobilisés en 2020, ainsi qu'en 2021, en 2022, en 2023, que ces 100 milliards de dollars ne sont pas mobilisés, cela malheureusement fait déchanter plusieurs pays en développement. Et donc il est important que les pays développés puissent véritablement remplir leurs engagements, ce qui va susciter un dépassement, un saut qualitatif de la part de beaucoup de pays en développement.
Tosi Mpanumpa, un participant de la conférence COP26 à Glasgow, en Écosse. États-Unis, à Washington, plus précisément, alors que le président américain Joe Biden se trouve à Glasgow en Écosse pour la COP26, les démocrates sont occupés à faire passer au Congrès son plan de dépenses sociales et environnementales. Mise en perspective de Michel Quinn, le récit est de Jean-Roger Bion.
À Glasgow, le président Joe Biden a estimé qu'agir contre le changement climatique est un impératif moral et économique, en fixant notamment comme objectif pour son pays d'atteindre le zéro émission nette de carbone au plus tard en 2050. Ses partisans rêvent d'un coup de pouce par rapport à son agenda domestique, avec un éventuel succès des démocrates à faire adopter le plan de dépenses de 1750 milliards de dollars, dont plus de 500 milliards de dollars seront consacrés aux dépenses environnementales. Pete Buttigieg est le secrétaire américain au transport. Il s'est exprimé cette semaine sur ABC.
Ce que nous avons devant nous en ce moment, ce n'est pas une plaisanterie. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de bonne gouvernance. C'est ce qu'il y a de mieux pour les familles, pour les soins de santé, pour le climat. Quelque chose d'unique que peu de gens ont eu la chance de voir dans leur vie. Et ce sera un accomplissement extraordinaire dès que nous pourrons déposer la loi sur le bureau du président.
Avec les divisions entre les progressistes et modérés au sein du Parti démocrate, le projet de loi a été non seulement retardé, mais le budget initial a été revu à la baisse, notamment en ce qui concerne les dépenses de congés payés. En matière de protection du climat, le projet continue d'inclure de l'argent pour la mise en avant des énergies propres et la production de véhicules électriques. De l'argent est aussi prévu pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes et les entreprises utilisant les énergies renouvelables telles que l'éolienne et le solaire bénéficieront d'allègements fiscaux. Des impôts plus élevés sur les grosses fortunes et d'autres mesures paieront pour ces programmes. Mais l'opinion publique américaine veut du concret. Près de 70% de la population dit ignorer ce que contient ce plan d'infrastructure, selon un nouveau sondage ABC Ipsos. Les dirigeants républicains, eux, restent opposés à ce programme de dépenses. Kevin McCarthy est le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
Des milliards de dollars de dépenses, une expansion sans pareil des agences gouvernementales et encore plus d'inflation qui entraînera des coûts plus élevés pour tous les Américains. Tout cela est sur la table, mais les détails changent de minute en minute.
Sans aucun vote républicain, le président Biden aura besoin du soutien unanime des démocrates au Sénat, ce qui répartira le vote en égalité parfaite de 50-50. Dans cette éventualité, le vote de la vice-présidente Kamala Harris, qui préside le Sénat, fera basculer le vote en faveur des démocrates. Ces derniers devraient aussi faire attention à ne pas perdre plus de 3 voix démocrates à la Chambre des représentants.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'environnement et l'avenir de la planète au menu de la COP26 qui se tient à Glasgow. Selon les Nations Unies, l'Afrique est particulièrement vulnérable avec près de 120 millions de personnes qui seront exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes. Tout ceci alors que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Peut-on encore limiter le réchauffement de la planète? Comment limiter les effets du changement climatique en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi et nous nous excusons de quelques incidents techniques au début de ce programme. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Mohamed Oumfa, Georges Léonard Sagnou à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.